Dans cet épisode, on retrouve celui qu'on appelle le petit prince du trail. Si tu es ici, il n'est probablement pas nécessaire de te rappeler qui il est. Mais laisse-moi quand même te rappeler le palmarès incroyable de Xavier Thévenard. Xavier, il est triple vainqueur de l'UTMB en 2013, en 2015 et en 2018. Il est également l'un des très rares coureurs à avoir gagné les 4 courses au départ de Chamonix, l'UTMB, l'OCC, la TDS et la CCC. Mais Xavier est également connu pour son destin tragique. En effet, durant l'automne 2020, Xavier contracte la maladie de Lyme, une maladie venue tout droit des enfers avec laquelle il se bat depuis maintenant 3 ans. Durant cette heure passée ensemble, il m'a raconté tout ce qu'il met en place pour revenir au plus vite et pourquoi il y croit plus que jamais en ce moment. Xavier s'accroche et fait preuve d'un courage remarquable. On a également parlé de son superbe projet, un gîte 100% autonome et écologique, dans lequel il va accueillir des champions, mais aussi des passionnés qui veulent en apprendre plus sur son mode de vie. Ce projet rencontre un véritable succès puisqu'il a déjà enregistré 140 réservations en quelques jours. Pour terminer, le deuxième combat de Xavier, c'est un combat pour un monde plus durable et plus écologique. C'est un grand passionné, un grand curieux et tu vas voir que c'est un puits de connaissances. Et si tu restes jusqu'à la fin, Xavier nous partage son avis un peu croustillant sur la querelle qui fait polémique entre l'UTMB et les coureurs. Reste jusqu'au bout, tu vas voir, ça vaut le coup. Xavier, c'est clairement un multipotentiel. Curieux, intelligent et capable de tout apprendre. De mon point de vue, Xavier réussit tout ce qu'il entreprend. Donc je lui adresse, une fois de plus, tout mon soutien pour son combat contre la maladie et je vous encourage à le faire aussi. Juste avant de commencer l'épisode, je te remercie d'être ici et si tu découvres Extraterrien, sache qu'on est à la fois des vidéos sur YouTube, mais aussi un podcast en audio disponible sur toutes les plateformes de podcast. Tu peux nous retrouver en tapant Extraterrien. Et si tu veux découvrir les coulisses du podcast, tu peux nous retrouver sur Instagram. Je te mets le compte quelque part par ici. Allez, je t'embête pas plus. Mets tes baskets ou installe-toi confortablement et rendez-vous avec Xavier Thévenard. Eh ben, on peut Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Normalement, je dis salut ouais. À mon invité, salut Xavier, salut pour faire semblant qu'on vient de se rencontrer. Ouais. Mais là, je vais avoir du mal à mentir parce qu'on vient de déjeuner ensemble. Mais ouais. En tout cas, comment ça va?
Bah écoute, ça va. Content d'être là avec toi pour échanger. Et puis, voilà, la forme suit son cours un petit peu, avec encore un peu des hauts et des bas là, sur les ennuis de santé, mais j'ai l'impression qu'il y a une progression en tout cas vers le bien, donc on verra comment ça va ces prochains mois.
Ok. Peut-être. Je sais que j'ai beaucoup de fans, en tout cas de gens qui te suivent beaucoup, qui demandaient des nouvelles, tu vois, quand on leur a dit qu'on te rencontrait.
Ouais.
Si tu veux donner un rapide update, à la fois pour les gens qui ne te connaissent pas trop, et puis après, j'ai envie qu'on parle de sujets beaucoup plus positifs. Et je sais
Ouais.
qu'on vient de passer un super déjeuner où tu m'as dit plein de choses passionnantes et j'aimerais qu'on le partage un petit peu
OK.
et qu'on délivre beaucoup plus de messages d'espoir. Mais peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas et puis pour les gens qui te connaissent bien, est-ce que tu peux résumer rapidement la situation? Et puis après,
Ouais,
j'ai pas envie
bah
de t'embêter là-dessus.
non, bah parce que si en plus c'est important d'en parler parce qu'on est tous vulnérables face à ces choses-là de la vie, donc ça fait moi 3 années là maintenant que je galère avec une maladie de Lyme qui est devenue un peu chronique. Après, bon, je désespère pas, hein, y a des solutions pour sortir d'affaire, mais c'est vachement vicieux, sournois, et puis il faut rien lâcher et puis être patient. Donc voilà, je suis suivi en Allemagne depuis le mois d'octobre parce qu'ils ont un gros recul, une grosse
Ok.
expérience par rapport à cette pathologie-là. Et aujourd'hui, ben, je suis sous traitement actuellement. Ça progresse doucement, mais voilà, j'ai des analyses tous les mois pour savoir où j'en suis parce qu'il y a des curseurs qui sont très effondrés chez moi et il faudrait que ça remonte. Et tant que ces curseurs sont pas remontés, je serai sous traitement. Et ça prend du temps. Je suis sans arrêt en train de me documenter pour comprendre comment ça fonctionne au niveau du corps. Après, chaque individu est différent. J'accumule les témoignages de personnes et j'essaye de trouver aussi des sujets sportifs, un peu comme moi, hyperactifs, pour qu'ont une maladie de Lyme et de savoir comment eux soit sont arrivés à s'en sortir ou soit comment ça progresse aussi. Notamment avec Angelica Olmo, c'est une athlète italienne qui est allée au JO à Tokyo.
Ok.
C'est la compagne de Léo Berger
Ok.
et qui est
Ah,
aussi
elle a eu.
atteint ouais, de
Ok.
la maladie de Lyme. Et par exemple, j'échange souvent avec Angie parce que bah
Elle a
voilà,
eu
elle se
une.
fait soigner aussi en Allemagne dans la même clinique que moi. Et puis au moins on s'appelle pour savoir où ça va, pour soutenir aussi. Et puis donc c'est intéressant de comprendre
Bien
comment
sûr.
ça fonctionne. Et donc il y a pas mal d'espoir, en tout cas du côté allemand. On sent que en France on est assez démunis face à cette maladie parce que
Ok.
on est peut-être un peu moins bien formé pour les médecins.
Ouais.
Et puis il y a des problématiques qu'on n'a pas pris en compte du côté français, qu'on a pris en compte du côté allemand. Bref, c'est toute une histoire. Aujourd'hui, voilà, les médecins allemands sont assez confiants, mais par contre, ça risque de prendre encore un peu de temps. Et tout ce que j'avais fait jusqu'à présent avant de les rencontrer, et quand ils voient un peu la chronologie et le cursus au niveau des traitements, c'était certainement pas assez poussé et puis certainement un peu trop doux pour ce que c'était, quoi. Comme,
D'accord,
voilà,
ok.
donc on va voir.
Donc
Voilà.
réalisme allemand et efficacité allemande maintenant.
Et rigueur aussi,
Rigueur, ok. Peut-être en deux mots pour les auditeurs qui connaissent pas bien, parce que là tu viens quand même de citer deux athlètes de haut niveau qui sont touchés par cette maladie, donc c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'elle fait cette maladie? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Encore une fois, te sens pas obligé, tu vois, de tout
Ouais.
décrire, mais juste de faire comprendre aux auditeurs qui connaissent pas ce que c'est.
Alors, ça peut être très très variable d'un individu à un autre. Hein. On dénombre à peu près 90 symptômes pour une maladie de Lyme. Alors, on n'a pas les 90, mais ça peut aller. Bah, surtout, ce qui est assez fréquent, c'est les douleurs articulaires. Ce que
Ouais.
je n'ai pas, moi, justement, ça c'est une bonne chose. Déjà, j'ai pas de douleurs articulaires. J'ai surtout, ce qui est souvent aussi, c'est une grosse fatigue, mais assommante, quoi. Donc moi ça m'arrive quelquefois et puis après c'est souvent des problèmes neurologiques dans mon cas ça se traduit par une perte de force assez soudaine dans un effort physique ou pas forcément donc moi c'est sur les membres inférieurs il y en a qui malheureusement perdent l'usage de leurs jambes. Et là, j'ai comme exemple une jeune fille du côté de Mout, un village à côté de moi qui s'appelle Jeanne Salvi, qui s'en est sortie et qui est allée aussi en Allemagne. Elle avait perdu l'usage de ses jambes, donc fauteuil roulant, perdu l'usage de son bras à cause de la maladie de Lyme, donc une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Et donc ça se met en profondeur dans les tissus nerveux, quoi, en terminaison nerveuse, et ce qui provoque cette perte de sensibilité ou de perte de force dans mon cas, ou perte des membres inférieurs. Et après plusieurs mois d'antibiothérapie, on arrive à s'en sortir. Et ça peut être ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être des picotements dans la poitrine, ça peut être des oppressions thoraciques. Il y a plein de choses qui peuvent être... Généralement, on peut avoir un symptôme, et puis après un deuxième qui s'ajoute au premier, un troisième qui s'ajoute au deuxième. Et souvent, quand c'est le cas, quand c'est ce cas-là, ça peut être une maladie de Lyme. Et à diagnostiquer, c'est pas évident. Les sérologies les analyses sont quand même pas très fiables parce que des fois le système immunitaire détecte pas tout de suite que c'est une maladie Lyme, et pourtant on est infecté.
Comme s'il y avait une forme de déni du corps.
Non, en fait, c'est que la bactérie est apparemment très très rapide et arrive à déjouer le système immunitaire, donc la sérologie va pas la détecter tout de suite, en fait. Et par exemple, pour mon cas, non, parce que moi j'ai eu une sérologie positive tout de suite, mais pour donner, il y a un témoin qui est important, en fait, c'est l'érythème migrant, c'est le fameux anneau rouge qu'on peut avoir au milieu de la piqûre de tique. Alors ça, c'est que pour 30% des personnes qui sont infectées qui ont déclenché un érythème migrant. Dans mon cas, j'ai jamais eu d'érythème migrant et pourtant j'ai une maladie de Lyme. Et par exemple, quand on a cet érythème migrant, ça veut bien dire qu'on se fait infecter par la maladie de Lyme, et pour autant, au moment où on fait l'analyse de sang pour savoir si on a la maladie de Lyme, la sérologie sera négative. Et parce que en fait, le système immunitaire n'a pas eu le temps de déclencher une sérologie positive, donc c'est pas encore très très fiable ces analyses. Et puis voilà, donc ça prend du temps.
Mais merci de nous partager tout ça, parce que c'est vrai que déjà tu le vulgarises très bien, donc
parfait.
Et ça permet de mieux le comprendre, de mieux se mettre à ta place, tu vois, et d'avoir envie de te soutenir encore plus. Le traitement aujourd'hui, c'est un antibio qui va venir essayer de détruire les bactéries qui sont présentes, c'est ça?
Ouais, c'est de l'antibiothérapie. Alors après, j'ai pas que de l'antibiothérapie, j'ai énormément de compléments alimentaires pour soutenir le corps, parce que l'antibiothérapie à haute dose, aussi, ça crée pas mal de déséquilibre et c'est assez délétère pour le microbiote, etc. Donc il y a beaucoup de choses en supplémentation pour équilibrer, et puis on fait des analyses tous les mois pour savoir comment se comporte le foie, les reins, si tout est OK, et le traitement, finalement, il est personnalisé, et puis en fonction de comment va le foie, les reins, il est adapté de nouveau. Donc et c'est pas un antibiotique, moi j'ai double antibiothérapie. Parce que en fait, quand on s'aperçoit que quand on met un seul antibiotique, c'est là où on crée la résistance. Quand on en met deux, on limite la résistance. Et quand on en met trois, en Allemagne, ils vont jusqu'à trois antibiotiques des fois, pour les gros cas. Et ben là, ça crée encore moins d'antibiorésistance. Plus il y a d'antibio, moins ça crée de résistance. Et surtout, de ce que j'ai pu comprendre en me documentant, c'est que la bactérie de Lyme, Borrelia burgdorferi, elle a du mal à muter, elle mute très peu ou pas du tout, et en fait son moyen, son mécanisme de se défendre, c'est de se cacher ou de s'enquister ou de créer des biofilms. Alors les biofilms, c'est quoi? C'est un espèce d'écosystème qu'elle crée au sein de notre corps pour se protéger de l'antibiothérapie. Et c'est pour ça que c'est très long, et c'est aussi pour ça qu'on traverse des fois des périodes de haut et de bas, où on peut être très bien un jour, elle ne joue pas de tour, et puis un jour, elle va proliférer, elle va être là, présente, active, et en fait, elle est sortie d'un biofilm, et elle s'agite, et en fait, c'est ça qui est le plus dur, en fait, dans cette maladie de Lyme, c'est d'arriver à détruire le biofilm, et l'antibiothérapie n'a pas forcément le... Il y en a certains des antibiotiques qui arrivent, mais il faut souvent ajouter d'autres traitements à base d'enzymes, par exemple le sérapeptase, pour faire exploser ces biofilms et en même temps mettre de l'antibiothérapie. Donc ça peut prendre du temps. Et la problématique des biofilms, c'est pour ça que ça dure longtemps en fait,
bien sûr,
à soigner. Et tant que tous les biofilms ne sont pas détruits et tant que il y a de l'activité bactérienne, ben voilà, ça peut mettre du temps. Ouais. Et c'est pour ça que c'est long.
Ouais, bien sûr. En tout cas, bravo, tu vois, pour t'accrocher et, ouais, et aussi, je pense, te documenter. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des fois des pathologies très graves et qui cherchent pas trop à en savoir plus. Et toi, on sent que tu as envie de le maîtriser par l'esprit et ben, de le comprendre à 100%.
Non, mais tout simplement pour le quotidien. Je veux dire, je me vois pas continuer à faire du sport ou avoir une vie comme ça de sédentaire. Ça me saoule, quoi. Il faut que je me sorte de là. Donc... j'essaie de comprendre pour me sortir le plus vite d'affaire et je me documente et on va dire que c'est le seul point positif d'avoir eu ce truc-là, c'est de s'intéresser à plein de choses au niveau du corps humain, de comment ça fonctionne et ça m'a enrichi quelque part, mais c'est vraiment le seul point positif. Et puis aussi de la rencontre avec d'autres personnes aussi, d'échanger et ça c'est intéressant aussi. Même d'avoir testé des nouvelles choses au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a plein de choses à faire encore pour essayer d'améliorer son organisme et retrouver au mieux son homéostasie. Et ben voilà, on teste des choses, on fait son expérience, et ça, on va dire que c'est une des seules choses positives par rapport à la maladie de Lyme, mais apprendre le piano aussi.
Aussi, ouais. Le retour sera d'autant plus beau.
Ouais, et j'espère, effectivement. Ouais,
c'est sûr, ça fait aucun doute.
Ouais, aucun doute. J'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas, je mets toutes les armes dans ce combat, et puis on va essayer de faire au mieux. Mais après, voilà, je reste prudent, parce que j'ai eu déjà des moments d'euphorie où ça allait bien pendant plusieurs semaines, et je me dis, c'est bon, c'est gagné, c'est fini. Et puis derrière, je me reprends un coup derrière la tête, quoi, et c'est ça aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que finalement, au début, je me disais, je vais continuer à m'entraîner du mieux possible avec ce truc-là pour pas trop perdre, parce que le jour où ça reviendra, eh ben, je serai pas trop à la rue, et puis je pourrais refaire des grandes balades en montagne, et refaire 2-3 ultras, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'ai peut-être, et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, j'ai fait que d'aggraver le cas, parce que en maintenant un entraînement assez soutenu, le système immunitaire, il est déjà mis à contribution parce qu'il y a une infection dans le corps. J'ai fait que d'affaiblir l'organisme ces dernières années, en ayant les traitements, en ayant la maladie. Et puis finalement, tu fais le constat, tu arrives fin 2023, au début de l'infection 2020, fin 2020, je suis moins bien en 2023 que fin 2020. Et pourtant, j'ai eu des traitements. Mais en fait, quand tu passes de 1000 heures d'entraînement à 500 heures, tu as l'impression d'avoir fortement diminué et que tu n'as rien foutu de l'année. Mais en fait, peut-être que pour un corps malade, c'est trop. Et puis, c'est un peu ce qu'on m'a mis un peu en garde les médecins allemands et puis d'autres personnes qui ont eu la maladie de Lyme, c'est que il ne faut pas trop solliciter leur organisme. Et c'est hyper difficile parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. Ton quotidien, c'est passer de ta vie dehors à faire des grandes tirées. Et puis là, on te dit, il va falloir vraiment diminuer parce que sinon, ça va être compliqué de remonter la pente. Et de le conscientiser, c'est une chose qui n'est pas évidente à faire.
Bien sûr.
Et le passage à l'acte, il prend du temps à se mettre en place, quoi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. Tu passes une vie de super actif à quelque chose d'assez atténué, c'est dur.
T'imagines que pour la grande majorité des gens, sortir de la zone de confort, c'est d'aller courir, d'aller courir tous les jours en montagne, c'est énorme et ça leur paraît insurmontable. Et effectivement, dès qu'on fait beaucoup de sport, c'est plutôt rester enfermé qui devient dur, quoi.
C'est tout
le paradoxe.
C'est une façon de voir la vie un peu différente, mais après, on a tous des motivations profondes qui sont aussi différentes. Le sport, hein, c'en est une. Peut-être que pour certains, ça va être la musique. Pour d'autres, faire du dessin ou son boulot ou n'importe quoi. Donc, on est tous différents par rapport à ça. Et est-ce que sortir sa zone de confort, c'est faire du sport ou pas, ben, pas si sûr en fait. C'est
Ouais, bien sûr.
chacun a sa perception, sa vision du monde.
Ouais, bien sûr. Ça l'illustre bien, justement, que notre zone de confort, elle est différente et elle est d'un individu à l'autre. Ce que je retiens, c'est là, tu te sens entre de bonnes mains, tu te sens bien accompagné et tu te connais mieux que jamais pour, en tout cas, pour en venir à bout, quoi. Ce que j'entends.
En tout cas, aujourd'hui, là où je suis rassuré d'être allé en Allemagne et j'ai beaucoup d'espoir, c'est que, en fait, eux, ils s'appuient sur d'autres curseurs que la sérologie positif ou négatif. Du fait qu'elle se cache, des fois, on peut avoir une sérologie qui est négative, mais pour autant, on a toujours atteint la maladie de Lyme. Eux, ils s'appuient sur des
Ça t'est arrivé en
marqueurs.
France?
Non, en France, non. J'étais suivi par un médecin français qui est très compétent sur la question, mais il ne s'appuyait pas forcément sur les marqueurs qui regardent en Allemagne, à savoir
Ok.
le typage lymphocytaire avec des. Ouais, vraiment, il y a des marqueurs précis du système immunitaire qui montrent si tu as une infection chronique ou pas. Et les Allemands, ils s'appuient beaucoup sur ça. Si ces marqueurs-là sont pas hauts, eh ben, ça veut dire que tu es encore en contact avec cette bactérie. Si ils sont bas, ben, ouais, voilà. Donc, en gros, bah, ça met confiance dans ce sens-là, parce qu'ils ont un gros recul, une grosse expérience, et qu'ils arrivent à peu près à me donner aussi une échéance. Voilà. Ils me
Ouais.
disent là, il faut compter à peu près 6 mois, quoi. Et
OK.
peut-être que ça sera plus, mais 6 mois, ça peut le faire. Ben, ça, dans la tête, c'est super
C'est
important, quoi.
rassurant, ouais, c'est sûr.
Alors que j'avais eu une info, c'était un peu au tâton, en fonction des symptômes. Et là,
T'as un
ben,
objectif en fait.
ouais, un objectif. Et puis, encore une fois, en me documentant et puis aussi en échangeant avec NJ, avec d'autres personnes, bah, tu sais que ça peut être possible, quoi. Voilà. Donc,
Ok.
mais encore une fois, oui, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et puis, il faut vraiment être bon sur tout le tableau, quoi. Je veux dire, sur l'inflammation, sur arriver à consolider le système immunitaire, sur l'alimentation, essayer d'être à peu près bon de partout pour pouvoir pour avoir des chances de s'en sortir, quoi. Parce que c'est pas rien, quoi. C'est vraiment pas
Ah, bien
rien
sûr.
comme pathologie.
Ah, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai pu constater au déjeuner que tu fais beaucoup de choses parfaitement
Ouais, au
et...
fond, parfaitement, je sais pas, mais ouais, non, en tout cas. Mais sans pour autant, justement, sans obligation, sans contrainte, c'est vraiment c'est une hygiène de vie pour être
Voulu.
mieux après et puis retrouver son homéostasie le plus rapidement possible.
Ouais. T'as modifié un peu ton alimentation?
Bon, je l'ai fait beaucoup évoluer, ouais,
Ouais.
ces dernières années. Depuis que je fais du trail, c'est sûr que ça a beaucoup beaucoup changé, ouais. Mais encore une fois, je l'ai fait par expérience, voir ce qui me correspondait le mieux pour gagner de la vitalité, parce que ce que je veux, moi, c'est m'éclater en montagne et puis avoir du plaisir, d'avoir des sensations. Et je préfère me restreindre sur 2-3 trucs pour avoir des meilleures sensations après, plutôt que bah, voilà, d'avoir une alimentation qui me correspond moins et puis d'être un peu plus fatigué, etc. Ça, voilà, j'y trouve mon compte. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune contrainte ni obligation en ce qui concerne l'alimentation, parce que derrière, ce qui me plaît, c'est d'être bien en montagne, quoi.
Ouais, bien sûr. C'est l'objectif et tu le vois comme un outil du coup.
Exactement, parce qu'il y en a plein qui trouveraient ça hyper contraignant ou
On s'est
pas.
régalé ce midi.
Bah ouais, c'était très bon, hein.
C'est trop
Et puis voilà, donc encore une fois, c'est parce que on a des motivations profondes
Bien
et
sûr.
moi, c'est d'aller dehors et puis de faire des grandes balades
Ouais, bien sûr.
et d'avoir des sensations. Donc je mets à côté les outils, comme tu dis, qui me correspondent.
C'est marrant parce que tu sais, c'est encore cette notion de relation à la privation. Tu vois, le gain pour toi de ta santé et d'aller recourir, il est tellement fort que bah, ça ne te semble même pas être une contrainte en fait. C'est
Ouais, voilà.
normal et il faut le faire. Et puis de toute façon, ça faisait très longtemps que tu avais pris très sérieusement ton alimentation, tu me disais.
Bah, ça m'a fait beaucoup réfléchir en rencontrant Benoît Nave, qui est
Ok.
ostéopathe à Annecy, puis c'est un bon copain et qui est aussi micronutritionniste. Et puis en le rencontrant, j'ai beaucoup fait évoluer. Il a amené les choses de façon pédagogique en disant tiens, essaye ça ou essaye ça, sans jamais dire fais comme ça ou fais comme ci.
Ouais.
Et puis, bon, par curiosité, j'ai essayé. Et puis, effectivement, c'est tout de suite transformé en vitalité, en résultat, derrière, en progression. Donc, c'est comme ça, après, que je me suis aussi vachement intéressé à la nutrition, à me documenter, encore une fois, parce que, bah, voilà.
T'as vu la diff, quoi.
Ouais, exactement. Et je me dis, si j'avais pas fait tout ça avant. Là, en ayant les problèmes de santé et la maladie de Lyme qui est arrivée, peut-être que je serais encore plus bas, quoi. Et le fait d'avoir eu déjà une alimentation quasi bah, 100% bio, en essayant de pas faire la part belle forcément aux glucides, un peu un régime à high fat, low carb, avec high fat des graisses de qualité, et ben finalement. Le corps, il est moins tombé bas lors de l'infection.
Et ça m'a, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris parce que je te disais que moi j'avais été éduqué effectivement plus jeune, tu vois, à ok, tout ce qui est sport d'endurance, il faut beaucoup de glucides, les gels c'est obligatoire et tout. Et bon, je découvre, ça fait un petit moment quand même déjà que j'ai changé d'avis, mais c'est la première fois que, enfin, c'est une des premières fois que je rencontre un athlète avec qui performe à aussi haut niveau avec un régime, tu vois, vraiment low carb assez poussé, quoi. Et presque cétogène, tu vois. Ou en tout cas qui s'en approche. Donc,
Ouais, après je
t'en connais
vais
d'autres, d'ailleurs, mais.
ouais après qui font je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui font avec high fat low carb mais surtout en tout cas dans le milieu de l'ultra parce que l'ultra on est sur une filière hein, quand même beaucoup sur les graisses quoi où le premier carburant c'est la lipolyse. Et du coup, d'avoir une alimentation qui tourne vers ça dans le quotidien, ben, ça peut que, en tout cas, mettre en condition l'organisme à être sur la filière des lipides plutôt que des glucides. Voilà, ça l'entraîne déjà quelque part.
Bien
Donc,
sûr.
moi, je fais l'ultra, je fais pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'ultra, mais j'aimerais bien en faire.
C'est pour rien, toi.
Mais je veux dire, voilà, de faire des grandes sorties, on est sur cette filière-là, et c'est sûr que si dans son alimentation au quotidien, on tourne plutôt vers les graisses de qualité que les glucides ou les glucides à index glycémique bas, ben forcément, on a déjà mis le corps dans de bonnes dispositions le jour de la course. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, en tout cas pour du long. Je pense que pour du court, effectivement, les glucides sont importants. Et puis d'avoir un certain nombre de glucides à l'heure, c'est important d'avoir une bonne quantité. Sur du long, c'est moins,
Ouais,
peut-être
toi
un peu
tu
moins
mesures
important.
pas, toi. Ça m'a fait marrer parce que c'est vrai que j'avais l'impression chez certains ultra-trailers que c'était une donnée hyper suivie, tu vois, la quantité de glucides à l'heure durant un ultra. Et tu m'as dit non, mais moi je fais aux sensations. Et apparemment, ça a l'air d'être une recette qui marche parce que y a quand même pas mal d'autres qui font aux sensations et pour qui ça marche, tu vois.
Mais peut-être que c'est une donnée à prendre en compte et qu'il faudrait que je m'y mette pour pouvoir progresser une fois que ça sera fini les problèmes de santé. Mais c'est vrai que je me disais, il faudrait. Plutôt que je mange toutes les 40 minutes pour pas être pour prévoir le coup de moins bien, comme ça je suis sûr d'avoir une quantité à peu près suffisante, mais j'ai jamais trop calculé le ratio à l'heure de quantité de glucides qu'il me fallait.
Ouais.
Voilà. Je pense que à la base, voilà, j'ai une bonne lipolyse. Bah, en fait, j'ai gagné mon premier UTMB donc en 2013. Et puis, j'avais mon boulot d'éducateur sportif à plein temps, donc je bossais 6 heures par jour, même les week-ends, je bossais à la Croix-Branche. Et ce que je faisais le matin, je partais le matin à 5h30 courir, tous les jours, et je partais tout le temps à jeun. Donc, et après, je déjeunais un coup. Donc, en fait, j'étais tout de suite sur la filière des lipides, et cet entraînement-là, sur plusieurs années, certainement, ça a fait que j'arrive vite à être sur cette filière-là des lipides, et c'est ce qui peut-être m'a aidé aussi sur... À être pas trop mal sur des ultra trails, quoi.
Ouais, moi je suis intimement convaincu de l'intérêt de l'entraînement à jeun. Alors peut-être pas pour des séances à haute intensité, tu vois, je pense que là c'est presque dangereux, tu vois. Mais effectivement, quand tu fais une basse intensité ou même une sortie longue, là, commencer à jeun et puis t'alimenter en cours, je pense que c'est
voilà,
pas
ouais,
c'est
pas le c'est petit déjeuner en cours, hein.
Ça tu connais.
Ouais.
Et ok, mais en tout cas c'est hyper intéressant et je trouve que c'est un peu comme sur les sujets de l'écologie, c'est important de montrer d'autres modèles, notamment que les modèles peut-être trop mis en avant, peut-être aussi souvent un peu par les systèmes marketing, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une nouvelle recette, un nouveau produit, un nouveau truc pour nous faire un peu acheter une nouvelle recette, un nouveau truc miracle. Alors que finalement, les bonnes vieilles recettes de grand-mère, simples, cohérentes, ça fonctionne aussi. Et elles sont moins sexy, elles sont moins vendeuses, mais du coup, on les met peu en avant, quoi. Et c'est bien d'en parler, en tout cas.
C'est sûr que la simplicité, c'est quand même intéressant sur l'ultra.
Il en faut, ouais.
En tout cas, ce que je regarde sur l'ultra au niveau de l'alimentation, ce qui m'intéresse, c'est... Il y a trois critères, c'est d'avoir un aliment avec un index glycémique assez faible pour pas avoir des pics de glycémie et risquer de faire une hypoglycémie, que ça soit assez basifiant pour l'organisme pour tamponner un peu l'acidité, et puis que ça soit assez énergétique, hein. Donc là, avec Baou, ma marque de nutrition, les trois critères sont remplis. En plus, c'est 100% bio et il y a des saveurs en veux-tu en voilà, en salé, en sucré. C'est simple comme produit. Et puis au moins ça fonctionne. En tout cas, moi, de ce que j'ai testé à l'entraînement avec ces produits ou sur des ultras, il y a tout me correspond.
Écoute, trop bien. Et est-ce qu'il y a d'autres unités que tu mesures? Tu as parlé un peu de ton kilométrage à l'année, ou là on s'est dit que tu suivais pas cette donnée de glucides à l'heure, quoi. Est-ce que toi il y a des données que tu suivais un petit peu? Alors moi j'aime bien traquer les habitudes pour faire changer mon comportement, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, pendant un moment je disais non, mais je bois une ou deux bières par mois, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Et du coup, j'ai pris un fichier Excel, tu vois, ou un petit carnet. Je me suis mis à noter tous les jours où je buvais juste une bière. Puis à la fin du mois, je me suis dit, ah, en fait, il n'y en a pas deux. Il y en a cinq ou six, en fait. Et après, tu vois, je me disais, ouais, est-ce que je fais tous les efforts commercialement parlant? Donc, je me suis dit, tiens, je vais noter tous les coups de fil commerciaux que je passe ou tous les emails commerciaux que je passe. Puis je pensais que j'en écrivais beaucoup, tu vois. Et puis en fait, en regardant, je me disais, ah, tiens, je pourrais faire plus. Donc j'aime beaucoup suivre mes habitudes, tu vois, parce que naturellement, ça te fait prendre conscience de la réalité, et ça peut te permettre de faire évoluer. Et du coup, je suis toujours curieux de savoir, toi, est-ce qu'il y avait des mesures que tu suivais un peu dans n'importe quel domaine, hein. On vient de parler d'alimentation, mais ça peut être du kilométrage, ça peut être du temps passé sur une activité, sur une autre. Est-ce que toi, il y a deux, trois trucs que tu suis un peu comme ça ou pas?
Par rapport au kilométrage, pas trop, ni au dénivelé. Après, j'aime bien regarder par curiosité, savoir combien j'ai fait de dénivelé à l'année ou de kilomètres en course à pied, en ski. Maintenant, avec les applications qu'on peut avoir sur Garmin ou Nolio, etc., c'est super simple. Mais après, moi, je me fais mon carnet intime, mon carnet d'entraînement, et ça depuis des années et des années. J'ai toujours fait ça depuis un peu l'âge de 10 ans. Donc, j'ai un recueil d'informations, je les ai là, hein, ils sont dans le bureau depuis des années et des années en arrière. Après, bon...
Il y a quoi dedans? Attends, mais je suis curieux.
Alors, il y a quoi? Il y a... la quantité d'entraînement dans la journée, donc en heures, Les sensations, si c'était bien, si pas bien, l'intensité.
Ouais.
C'était surtout ça, quoi. Une observation sur la météo, donc savoir combien de champignons j'ai ramassé sur la sortie. Non, la météo, non, des choses comme ça.
Ah, tu notais aussi la météo, ouais.
La météo. Après, voilà, c'était juste à titre informel pour savoir quel temps il faisait ce jour-là.
T'as essayé de faire des parallèles entre la météo et le niveau de difficulté ou pas?
Ben, non, non, pas exactement. Après, c'est surtout pour avoir des informations. Mais je suis pas tout le temps plongé dedans, quoi.
Ouais. Non, mais juste écrire
Voilà.
sa vie de la
Ouais,
table, ouais.
exactement. Et puis, donc je faisais ça parce qu'avant les applications et les montres connectées, ben, à la fin, tu fais les totos et puis tu regardes combien tu as d'entraînement, de dénivelé, etc. Mais maintenant, bah, c'est vachement facile. Mais je m'acharne pas trop à regarder tout ça. Et encore moins avec les soucis de santé parce que sinon ça ferait peur. Parce que tu dis, oh, j'ai rien foutu cette année ou j'ai rien foutu ce mois-là.
C'est ton corps qui le demande et qu'on a
Bah oui,
besoin
effectivement,
et c'est pour repartir.
ouais, exactement. Je décide pas de tout. Et puis, mais je regarde surtout, en fait, j'ai mes circuits un peu référence autour de la maison. Sur le Mont d'Or, Suchet, Zégulbaum, et je sais combien de temps je mets quand je suis en forme, quand je suis pas en forme. Bon, de toute façon, tu le ressens tout de suite. Hein,
Bien
au
sûr.
bout de 20-30 minutes, tu sais si t'es plutôt en forme ou t'es pas en forme, quoi. Et puis quand t'arrives avec 5-10 minutes de retard par rapport à tes temps d'habitude, bah, tu te dis, ouais, je suis un peu collé aujourd'hui, je vais peut-être me reposer un peu. Et à l'inverse, bah, des fois, quand t'es en correct ou un peu en avance, tu te dis, ouais, c'est pas mal, je pense être sur une
Ok. Il
bonne
fait
forme.
combien de temps ton tour et combien de kilomètres?
Bon, là, derrière la maison, j'ai un tour de 24 bornes que je peux faire assez souvent. Le Suchet, les aiguilles de Baume. Ça fait à peu près 1300 mètres de dénivelé positif. Il y a 24 bornes. Ben, voilà, tu mets en.
C'est pas mal.
Ouais. Et 2 h 30, ça passe très bien, quoi.
Ouais, ok. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Il y a d'autres choses? Peut-être que tu mesures ou que tu notes?
Qu'est-ce que je note? Qu'est-ce que je note aussi?
C'est pas une obligation, hein. D'ailleurs, je me disais, tiens, c'est.
Non, après, en termes de chiffres, maintenant, depuis quelques années maintenant, j'essaye de faire gaffe par rapport à mon bilan carbone. Quand tu parlais d'écologie,
Ah,
regarder un
ok.
petit peu par rapport à ce qu'on devrait être en termes de quantité de CO2 à l'année pour respecter les accords de Paris et puis arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 pour limiter le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré et même à plus 2. Donc,
Ça, tu le suis, ouais.
je sais un peu à combien je suis à l'heure actuelle et j'essaie de diminuer parce que c'est tellement important et les enjeux sont tellement importants qu'il faut qu'on arrive à veiller à ça, quoi. Alors après, je suis pas irréprochable, je suis pas exemplaire, mais ouais, j'essaye de faire du mieux. Et puis déjà, bah, pour moi, pour ma conscience et puis mes convictions, pour que je dorme bien la nuit. Mais c'est sûr que c'est pas évident, hein, parce que les données qui sont recommandées, c'est arriver à 2 tonnes de CO2 par an par personne pour respecter les accords de Paris, limiter le réchauffement planétaire à 1 plus 1,5 degré. Et il faut qu'on soit tous donc à 2 tonnes de CO2. Et aujourd'hui, un Français moyen, il est à 10 tonnes. Donc il faudrait qu'on baisse de 5 fois notre bilan carbone annuel.
Ce qui est
Et ça, c'est
énorme.
un gros, gros travail. Là, aujourd'hui, j'ai mis pas mal de choses en place dans mon quotidien. Je suis à peine en dessous de 5 tonnes, quoi. Voilà.
Ok.
Ouais. Donc,
Wow. Et tu le mesures comment?
bon, il y a plein de choses aujourd'hui. Tu vas sur Nos gestes du climat,
Ouais,
sur
je partagerai les
Internet.
liens et tout, c'est
Ouais.
bien de.
Nos gestes du climat, ça te prend 15 minutes, t'as des données un peu précises à rendre. Ça te donne une ordre de grandeur,
Bien
quoi.
sûr.
Après, c'est pas précis dans vraiment, mais ça te donne une bonne fourchette de savoir où tu te situes.
Ouais.
Et puis, l'idée, c'est d'arriver à diminuer. Donc, j'essaye en tout cas de diminuer. Encore une fois, ben, on est tous plein de contradictions. Et dans ce monde mondialisé, ben, il faut essayer d'arriver à trouver le bon équilibre avec nos contradictions et puis ces problèmes qu'on va rencontrer, bah, qui sont déjà présentes à l'heure actuelle, mais qu'on va rencontrer et qui vont s'accentuer malheureusement ces prochaines années, quoi.
Ouais. Bah déjà, bravo, parce que tu vois, selon moi, tu as fait la moitié du travail qui est au moins de le mesurer et d'avoir conscience et d'avoir un benchmark de, enfin, d'avoir un étalon de combien tu es maintenant. Et après, je considère que quand tu regardes un chiffre régulièrement, tu essaies de le faire tendre vers le côté où tu as envie, tu vois.
Ouais, bien
Et
sûr.
aujourd'hui, je trouve que trop peu de gens sont au courant de leur bilan carbone, tu vois. Et juste le faire, déjà, c'est beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais
Ouais.
c'est une première prise de conscience, en fait.
Non, mais c'est sûr. Après, moi, là, je suis depuis peu, je suis depuis 2 ans maintenant, je suis animateur de la fresque du climat. Donc aussi, ça m'aide. C'est un travail de sensibilisation. La fresque du climat, c'est un atelier qui vulgarise un petit peu le rapport du GIEC, avec un atelier avec des cartes où il faut. Faut mettre des relations de cause à effet entre les cartes, quoi engendre quoi, et c'est un super atelier de sensibilisation. Et du coup, je suis pas mal demandé pour faire cet atelier-là avec des groupes de sportifs, avec des entreprises diverses et variées. Et ben ça, c'est ouais, encore une fois un bel outil. Et on comprend en fait où vers quoi on va, et on comprend les ordres de grandeur. Et à mon avis, les ordres de grandeur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et forcément, je suis attaché à ça, et le fait de faire des fresques du climat, ben on est d'autant plus sensibilisé.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu le bilan carbone, quoi. Mon bilan carbone, et puis le faire démocratiser au plus grand nombre.
Bien sûr. Puis t'es hyper calé, je trouve.
Calé, ben parce que voilà, une fois j'ai les ordres de grandeur, et puis. Encore une fois, en me documentant un petit peu sur la question, ben, tu sais ce qui émet un peu plus de gaz à effet de serre, tu sais ce qui émet un peu moins, et puis voilà. Donc, encore une fois, c'est un peu aussi des convictions personnelles. À un moment donné, il fallait que je remette du sens dans ma pratique. Je me disais, ben voilà, en prenant l'avion trop souvent de fois dans l'année. Forcément, je participe à la destruction de mon environnement et j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Il fallait que je mette du sens, et je me disais, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller en montagne, voir la faune, la flore évoluer au fil des saisons. Il y a cet aspect contemplatif que j'aime dans le trail. Et puis je me disais, ben ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quand tu vas à l'autre bout de la planète pour aller faire une course. Ben, tu sais que le transport en avion, par exemple, quand tu fais un Paris-New York aller-retour, en termes de quantité de CO2, c'est équivalent à 2 tonnes. 2 tonnes, c'est ce qu'on doit. On ne doit pas émettre plus que 2 tonnes dans une année, dans tous les secteurs confondus. Donc, le logement, les transports, la nourriture. Tu as aussi une case service public qui est directement imputée à ton bilan carbone, parce que c'est ce qui fait fonctionner, bah, le modèle de santé, l'éducation, etc. Et bref, ces domaines-là, ben, tous ces domaines confondus, tu dois pas, ça doit être une enveloppe de 2 tonnes. Quand tu fais un trajet aller-retour Paris-New York, par exemple, tu es à 2 tonnes. Donc après, tu n'as plus qu'à te mettre à la diète, quoi, ou au revoir. Et c'est pour ça qu'on est tous concernés, on est tous responsables, et il faut essayer d'arriver à faire en sorte que l'avenir de demain, il soit sympa, quoi. Et ça, on
Bien
n'est pas
sûr.
du tout sûr de le garantir. Donc. Moi, pour moi, en tout cas, j'étais plus à l'aise avec ça, et c'est pour ça que il y a d'autres moyens de faire, sans, en plus, en ayant encore une fois une vie sympa, assez confortable aussi, voilà, et en essayant de diminuer son empreinte carbone.
Qu'est-ce qu'il a changé dans sa vie, le Xavier de maintenant entre, et le Xavier d'il y a, je sais pas, 7-8 ans, tu vois? Concrètement, tu vois, si tu devais dire quelques gros changements, alors tu as parlé de l'avion, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres changements dans le quotidien qui t'ont semblé facile et qui avaient des impacts ou Toi, qu'est-ce que tu as fait en tout cas?
Ouais.
Et encore une fois, personne n'est parfait, personne n'est exemplaire.
Exactement,
on essaie,
ouais.
On essaye juste de se mesurer chaque jour et de faire un petit peu mieux que la veille. Et on fait ce qu'on peut de notre mieux.
Et on fait ce qu'on peut, effectivement. Mais qu'est-ce qui a changé? Une compréhension peut-être un peu plus poussée du monde. Puis on évolue en tant qu'individu dans la société d'année en année. Et puis après, l'important, des fois, c'est de faire des passages à l'acte qui nous font sens. Hein.
Ouais.
Et, par rapport à l'écologie, par rapport au bilan carbone, aux gaz à effet de serre qu'on peut émettre dans l'atmosphère, il n'y a pas eu que cette prise de décision de ne plus prendre l'avion. Il y a eu d'autres choses comme ici, de déplacer davantage en train, en vélo... là, on est en pleine rénovation d'une maison dans le Haut-Jura pour faire aussi de la location, accueillir du monde. Eh bien, on l'a conçue de façon à ce qu'elle ait très peu de déperdition d'énergie, en se rapprochant de quelque chose avec un concept un peu de low-tech, peu d'électroménager, ou l'électroménager, mais pas très énergivore, qui dure dans le temps, en essayant de mettre de côté l'obsolescence programmée.
C'est dur, hein.
Ouais, et puis en mettant de l'isolation de façon naturelle. Donc là, on a fait une isolation par l'extérieur en paille. Essayer de mettre un maximum de matériaux naturels, de l'argile, de la chaux, du bois, etc. Parce qu'on se dit, comme on n'est que de passage sur cette terre, ceux qui reviendront derrière nous, ils pourront, si l'isolation est foutue et qu'il faut la refaire, ils pourront mettre la paille derrière la maison et ça sera biodégradable. Et réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on laisse comme trace aussi demain, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces choix-là, en tout cas dans cette rénovation. Et puis encore une fois, ça essayer d'avoir un impact qui soit minime au maximum. Okay. Quoi.
Ça m'intéresse beaucoup, tu vois, si on pouvait rentrer un petit peu dans le concret, parce que tu vois, ce projet d'avoir un lieu de vie où tu peux accueillir, sensibiliser, ça fait partie des choses que j'aimerais bien construire. Et laisser aussi, tu vois. Et toi, tu as l'air d'avoir beaucoup intégré cette notion de laisser une trace et laisser une bonne trace. Tu as mentionné du coup, un petit peu, si on rentre un tout petit peu dans le concret, tu as mentionné du coup effectivement l'isolation, l'essai d'avoir des peu d'électronique finalement, si je comprends bien. Parce que c'est là où tu as beaucoup d'obsolescence programmée.
Aussi, ouais.
Vous avez, je crois qu'énergétiquement, tu as essayé... Tu vas marcher au solaire ou tu fais quoi?
On est au solaire. Alors, le solaire, est-ce que c'est du low-tech? Est-ce qu'il y a très peu d'électronique? Pas si sûr.
Ouais,
mais encore une fois, on essaye de faire du mieux possible. Et puis, avec l'environnement qui nous est donné autour de la maison, nous, on est en site isolé, donc c'est particulier. On ne peut pas se réaccorder sur le réseau. Si on devrait se réaccorder sur le réseau, ça demanderait encore plus de travaux au niveau terrassement. Ça ferait des grandes tranchées. Donc,
okay. Et puis, réseau quoi, électrique ou réseau d'eau?
Réseau électrique et eau. On est isolé, donc on est autonome en eau et électricité.
C'est quand même hyper ambitieux. Hein. C'est bravo, quoi.
Enfin, ouais, après, quand tu regardes avant la découverte des énergies fossiles, avant la découverte de l'électricité, là, la maison, elle est de 1663, donc 361 ans. Et tu te dis, à l'époque, ils n'avaient pas l'eau chaude ni l'électricité. Et si, ils avaient l'eau, ils avaient une citerne. Et en fait, ça se faisait comme ça. Sur les sites isolés, ils avaient une citerne, ils récupéraient l'eau du toit. Et puis ensuite, ils prenaient cette eau-là. Donc, en fait, on fait la même chose. Et l'homme, en 360 ans, il n'a pas forcément changé génétiquement. C'est à peu près le même individu. Donc, si ils savaient faire, nous, on devrait savoir faire. Surtout qu'on a beaucoup plus de confort dans notre société, de technologie et tout ça. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, quoi.
OK. Et l'eau potable, du coup?
Et alors pour potabiliser l'eau, on a un filtre UV et un filtre charbon, et normalement, ça fait le taf, quoi.
Ok.
Voilà.
Ok. Je savais que on pouvait maintenant avec des filtres UV et charbon, on peut le faire.
Ouais.
Et Les toilettes pour les eaux usées, tu fais comment?
Alors,
Ça c'est le truc
ouais.
embêtant, j'allais dire le mot qu'il
Wow.
faut pas, mais
Non, mais après, c'est sûr que
c'est pas sexy, mais c'est passionnant, tu vois.
c'est beaucoup
Enfin.
de réflexion aussi sur l'usage de l'eau. Alors là, pour le moment, on a fait ce choix-là, donc on a une cuve à récupération de plus.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
L'eau qui est utilisée pour les WC, donc elle n'est pas potabilisée, c'est un circuit qui va directement voilà, être utilisé dans les WC.
Ouais.
Et l'eau usée, donc, elle va dans notre phytoépuration, c'est le moyen d'assainissement le plus naturel, qui est filtré par les plantes et les bactéries et qui est rejeté directement dans la nature. Donc la condition, bien sûr,
C'est
c'est de
pas
pas
être
de mettre
trop.
des produits dégueulasses dans tes chiottes. Du vinaigre blanc, il y a plein de trucs hein,
Ouais,
de
tu
toute
fais tout.
façon pour mettre des produits naturels dans tes WC ou pareil pour les savons, pareil pour le gel douche ou tout ça quoi. Donc,
Ouais.
encore une fois, pour respecter au mieux l'environnement, le milieu naturel, et ben la phyto c'est voilà, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Et puis après, ben, on réfléchissait, mais peut-être plus tard, on n'a pas encore fait le pas, mais
Ouais.
sur des toilettes sèches, pourquoi pas. Voilà, dans le temps, ils arrivaient bien, ils faisaient comme ça, quoi. Pourquoi
Ouais.
nous, on n'y arriverait pas, quoi?
Ouais, c'est clair. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Le projet, il a commencé il y a 2-3 ans, c'est ça?
Ouais, on a signé le compromis, c'était
Bah, tu me
en
disais avant.
2020, ouais, juste avant le confinement. Mais après, bah voilà, il y a toute cette période là du Covid où bah, forcément tout était un peu arrêté, donc. Pas les travaux, mais au moins ça laisse le temps de poser les choses sur le papier,
Ouais.
de prendre du temps sur la réflexion du comment on veut concevoir le projet. Et ça a commencé avril 2021, ouais.
Ok.
Voilà.
Mais je suis content de te faire parler de ça parce qu'il y a peu de documentation, je trouve, sur Internet de personnes qui ont essayé, tu vois, de. Alors maintenant, on trouve tout sur le web, mais il y a peu d'exemples, peu de modèles de gens qui ont essayé, voilà, de créer une habitation autonome et énergétiquement neutre, tu vois. C'est pas si facile, franchement, pour m'être posé la question à un moment. Tu as des infos à droite, à gauche, mais tu vois, un projet de maison en entier, j'en ai pas trouvé. Toi, tu t'es informé comment? C'est une question que je
Ben,
me posais.
j'ai la chance d'être accompagné par Amélie qui est dans ce milieu-là, au niveau de l'architecture.
Ouais.
Et bon, voilà, on a les mêmes convictions au niveau de l'écologie, donc. Elle avait pas mal connaissance sur ce milieu, sur l'isolation, etc. Et puis on s'est rapproché d'un ami aussi qui lui nous a beaucoup aidé sur tout ce qui est charpentier, donc qui nous a aidé sur la toiture, qui nous a aidé sur l'isolation, qui est formé Propaille, donc qui nous a aidé sur l'isolation paille.
Parce que ça, c'est le gros œuvre et du coup, dur à faire par toi-même, quoi. Ouais.
Ouais, voilà, ouais, il faut des machines, de la technique, des compétences. Même si j'ai une formation dans les métiers du bois quand j'étais au lycée,
Ouais.
et ben voilà, il faut avoir une certaine expérience que je n'ai pas. Et puis et du coup, ben tout ça a fait qu'on a opté pour ce choix-là d'isolation. C'est bah la paille finalement, c'est très peu transformé quoi.
Ouais.
Et puis. Aussi, ben, c'est un super isolant. C'est certainement l'isolant le moins cher. Mais
Ok.
par contre, il y a peu de gens qui en mettent parce que très peu de personnes formées dessus. Pas très démocratisé. Et puis peut-être que ça prend du temps. Aussi, la mise en œuvre prend du temps. Donc si ça prend du temps, après, peut-être que ça revient un peu plus cher sur la mise en place. Mais par contre, ben, c'est ça qui est un peu délicat. C'est que. En fait, quand tu vois un peu comment fonctionne notre société actuelle, on veut toujours aller super vite, et ben la paille, ça repousse beaucoup de gens parce que ça va pas super vite, quoi. Il faut prendre le temps de mettre en place les choses, et puis trouver les gens qui mettent, qui font de la paille pour l'isolation, etc. Ouais. Trop les gens formés sur cette isolation-là pour la placer, etc. Donc voilà. Donc c'est fait de un peu de fil en aiguille et puis en allant en cherchant et puis encore une fois en essayant de pas aller trop vite aussi.
Mm. Ouais, bien sûr. Mm. C'est une belle éloge à la lenteur. Je trouve qu'on fait peu de on est dans, comme tu l'as dit, dans un monde où tout va toujours plus vite. On veut gagner du temps, on veut gagner de la productivité, on veut gagner du rendement et on n'apprécie plus le temps long et la lenteur. Donc ouais. Ça me parle beaucoup.
Puis en plus c'est cool parce que tu vois les choses avancer finalement assez petit à petit. Et puis chaque étape de franchie, t'as de la satisfaction. Quand t'as tout fait d'un coup très vite, bah t'as la satisfaction une seule fois. T'es content certes, mais là t'apprécies les choses. Et puis finalement bah, c'est d'autant plus satisfaisant parce que chaque étape a une satisfaction, puis ça prend un peu plus de temps, quoi. Donc t'as tout le temps, t'es tout le temps content finalement.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est, puis t'es en permanence en train de construire ton chez-toi, quoi.
Ouais, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Mmh.
Mmh. T'aimerais que ça devienne, enfin, tu le vois comment cet établissement dans 10 ans, tu vas y vivre et peut-être que tu t'imagines de faire une activité. Tu m'as dit que tu pouvais accueillir des gens.
Ouais, bien c'est en fait c'est ça aussi le but hein, surtout c'est ces vieilles fermes jurassiennes encore, elle est pas très grande en superficie par rapport à beaucoup d'autres fermes anciennes dans le Haut-Jura, mais on a scindé la maison en deux. Une partie peut-être plus pour nous, mais qui est encore modulable pour pouvoir accueillir encore plus de monde. Et une partie vraiment pour héberger du monde. Donc voilà, alors après, sous quelle forme, on ne sait pas trop encore. Mais
faudra venir en vélo depuis la gare, on vous prévient.
Ouais, ça c'est sûr. Là il y a un petit peu, hein, parce que la gare, la première gare, elle n'est pas toute près.
Mais tu as dit 30 km, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est facile, une heure, quoi. 45 minutes, ça doit être belle gare. Ah, Saint-Claude, s'il y a Saint-Claude, il y en a une. Donc, ouais, c'est 30 minutes.
Mm. Ok. Et en vélo, en vélo.
Ah non, pas en vélo. Là, je comptais en voiture. Alors en vélo, il faut compter un peu plus. Mais voilà, donc l'idée, c'est de faire partager ce lieu au plus grand nombre. En plus, c'est un endroit idéal pour se mettre au vert. Après, pourquoi pas proposer aussi, je pensais, je suis éducateur sportif, je suis moniteur de ski de fond. Bon, moniteur de ski de fond, c'est un métier un peu qui est en perdition. Hein, ça, avec l'enneigement qui est de plus en plus aléatoire sur le massif du Jura avec le dérèglement climatique, ça a tendance à se perdre. Mais je veux dire, l'idée, c'est de faire, pourquoi pas, des stage trail plus tard, parce que le cadre, okay, il est top là-bas. Et puis, d'être un coup tranquille. Le réseau, c'est pas encore super top, donc c'est parfait.
On peut couper, on déconne.
Voilà, exactement. Et puis, passer du bon temps là-bas, quoi. Voilà.
Ouais. Mmh. Ok.
Donc, ouais, accueillir du monde, c'est vraiment important pour nous, quoi.
Mmh. Ok. Tu voudrais l'ouvrir à partir de quand, du coup Peut-être faire venir les copains d'avoir pour tester.
Ouais, exactement. Bon, y a assez de place, mais normalement, on avait fait une campagne de crowdfunding là dernièrement, ouais, justement pour faire de la pré-réservation, et puis ça sera sur 2025 pour accueillir nos premiers hôtes. Donc ouais, c'est bientôt là, dans un an.
Mais c'est intéressant que tu parles aussi de réseau, parce que je pense que on cherche de la dépollution, du calme, du silence. Mm. Et je pense que le droit à la déconnexion va être de plus en plus rare, tu vois.
Ouais.
Et que être dans des endroits où t'as pas les ondes, tu peux pas connecter ton téléphone et tu peux te couper du monde et t'es là et t'es dans l'instant présent, c'est des instants qui deviennent... qui vont devenir rares et qui sont précieux, quoi. Donc je pense que c'est un argument aussi supplémentaire.
Ouais, après si tu veux te connecter, tu peux quand même, hein, trouver, hein, t'es quand même pas très loin.
Faut être honnête, oui.
Mais
De toute façon, on peut plus. Enfin, la couverture en France, elle est de 99,9%, je crois.
Ouais.
Donc
Mais ouais, c'est sûr que il y en a qui font ce pas-là, en tout cas, de chercher des lieux un peu isolés pour aller se mettre au vert et puis d'être coupé un peu de tout.
Ok.
Et à mon avis, ouais, on va trouver 2-3 personnes qui seront désireuses d'aller là-bas pour ça, quoi.
Ouais. T'as eu combien de pré-réservations, du coup?
Des pré-réservations, exactement, je dirais 100. Mais j'ai plus le chiffre exactement en tête.
Beau, ok, trop chouette. Et les gens, c'est encore ouvert?
C'est encore ouvert. Non, là c'est terminé, ouais.
Ok.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un endroit, c'est l'instant un peu promo, mais si les gens sont intéressés, qui veulent être dans une liste d'attente ou être au courant, tu vois, de quand est-ce qu'ils pourront venir. Alors, ça sera dans 2 ou 3 ans. Voilà, c'est le temps long, la lenteur, profiter des choses.
Ouais.
Laisser à Xavier aussi le temps de récupérer toute son énergie. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut laisser son mail, voir, pour les curieux bien intentionnés
Ouais. Eh ben, il faut aller tout simplement sur la page Instagram La Logétique.
Voilà. La Logétique, ok.
Et puis, en échangeant par message privé, ça sera très bien.
Ok, bon bah écoute, je mettrai le lien du compte. Et je suis content, enfin, c'est une super belle initiative que tu mets en place et franchement, je te félicite.
Merci.
Et je t'encourage même encore plus à le documenter et à encourager, quoi. C'est cool, comme on se disait, tu vois.
Ouais,
rendre
cool.
Ça cool.
Mmh,
je dis ça parce qu'on a eu une conversation à table qui était hyper intéressante de dire on ne met pas assez en avant que c'est cool d'avoir son jardin, de ouais. Vivre un peu plus sobrement.
Mmh.
Ce qui est cool dans la société, c'est encore d'avoir une grosse voiture et puis... Mmh. Et malheureusement, c'est des rôles modèles qui sont très ancrés dans le subconscient collectif, quoi.
Ben ouais, c'est sûr qu'il va falloir essayer de changer un peu les imaginaires par rapport aux problématiques qu'on va rencontrer sur le réchauffement planétaire. On sait vers quoi on va, hein. Et puis aussi par rapport à ce mode de vie qui sera certainement plus possible ces prochaines années, parce que voilà, aujourd'hui, on sait que notre monde fonctionne aux énergies fossiles, grâce au gaz, au charbon, au pétrole. Et par exemple, le pétrole, c'est une énergie qui est vraiment utilisée dans notre monde actuel, avec les transports, avec tout, quoi, l'habillement, tous nos accessoires du quotidien. Et ça, on sait, d'après les producteurs de pétrole et puis les ingénieurs de l'énergie, que d'ici 2050, on aura moitié de moins de pétrole qu'aujourd'hui. Pour les producteurs de pétrole. Donc nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole, hein. On le fait importer, mais je veux dire, ça sera peut-être 18-20 fois moins. Donc est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça bien longtemps? C'est pas si sûr. Et il va falloir réinventer un peu notre façon de voir le monde, notre façon de consommer. Et on n'aura pas le choix, donc la sobriété, soit on l'anticipe, soit on la subit, mais on va y avoir droit. Donc, ouais. Et ben, est-ce que d'avoir, comme on disait, ouais, effectivement une grosse voiture en ville, est-ce que c'est encore quelque chose de possible à l'heure actuelle? Ben non, c'est plus possible. Et il faut arriver à déconstruire ça et se dire, voilà, ce qui est cool, c'est par exemple de faire son jardin, c'est une connotation favorable dans la société. Et puis, il faut arriver à l'ancrer dans la société et d'avoir une grosse bagnole en ville, c'est quelque chose de ringard, ça sert à rien. Et puis, en se réinventant cet imaginaire, peut-être, et en changeant les codes, on arrivera certainement à inverser la tendance, à vivre plus sobrement. Et puis peut-être, et ça veut pas dire avec moins de confort. Quand on regarde aujourd'hui, on n'a jamais autant baigné dans le confort, et pourtant il n'y a jamais eu autant de burn-out dans notre société. Mmh. Alors est-ce que le confort est incompatible avec le bonheur? Ben c'est pas si sûr, quoi.
C'est une question. J'ai pas mal étudié le sujet parce que moi j'ai fait une dépression, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai, en fait, la dépression, elle vient à partir du moment où t'as quand même tes acquis un peu dans... T'es plus en mode survie, en fait. T'as connu justement cet effet de confort et ce bonheur-là, et tu manques de stimulation, en fait. Et ouais, t'as tout à fait raison, en fait. Plus il y a de confort, plus il y aura de la dépression et du burn-out. Ça, c'est parce qu'on veut plus, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est difficile à appréhender, ouais.
Ouais, ouais, après, c'est vrai que les niveaux d'appréciation du confort, c'est où qu'on se les... En fait, on est tous différents, encore une fois, par rapport à ça, où on se les met, qu'est-ce qu'on a besoin réellement, quoi. Et on devrait tous se poser la question de... Bah, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est pas essentiel? Est-ce que c'est superficiel?
Ouais.
Bah voilà, c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai besoin de... d'avoir je sais pas combien de paires de skis ouais. et plein de gadgets voilà c'est
Est-ce que toi ça t'a pas rendu un peu négatif parce que je sais que quand moi je commence beaucoup à m'intéresser au climat tu vois je commence à avoir de l'anxiété enfin pas de l'anxiété tu vois au sens anxiété chronique et mais je me dis, waouh, le futur qui nous attend, il n'est pas tout rose. Nos enfants, ils ne vont pas s'amuser. Ils vont devoir inverser la tendance et ça va quasiment être impossible. Et aussi, je me dis, quand je vois la montagne de choses qu'il va falloir faire et mettre en place à l'échelle mondiale, des fois, ça me désempare en fait, tu vois, ça me rend presque.
C'est sûr que ça peut mettre le barin à les chaussettes. Hein.
Et du coup, des fois, j'ai un peu. Je me fais des scénarios négatifs dans ma tête. Et je me dis, mais ouais, s'il y a un conflit énergétique, mais c'est le monde va toucher à sa fin, quoi. On va même peut-être s'entretuer, tu vois.
C'est sûr que ça fait réfléchir beaucoup. Et puis moi, effectivement, comme moralement, des fois, je suis plutôt de nature optimiste, mais je veux dire, là, ma prise de décision de ne plus prendre l'avion, elle s'est faite sur deux bouquins. Sur celui de j'avais déjà des convictions écologiques avant, mais ça s'est amplifié en me documentant et en lisant. Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, et puis Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité,
ouais,
qui est plutôt basé sur la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, qui est un problème qu'on ne parle pas assez, mais qui est un gros problème. Et ben, en fait, je me suis dit, mais en fait, on est des malades, quoi. On joue avec le feu, quoi. On joue avec le feu, et puis je me disais, il faut que tout le monde fasse un peu sa part. Alors, encore une fois, on est tous plein de contradictions, mais du mieux possible, quoi, d'essayer de tendre vers ça, d'essayer de tendre vers ce changement, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, pour avoir une vie sympa à l'avenir, confortable, dans le sens, avec beaucoup de biodiversité et puis aussi avec ses proches, d'avoir des liens, pour qu'on soit pas dans un conflit et tout. Et c'est sûr que quand tu lis ces bouquins, tu te dis à quoi on joue, quoi. Et il faut pas qu'on déconne. Et c'est pour ça que ces choix aussi de maison durable, d'être plutôt autonome en énergie, en flotte, d'essayer d'arriver vers tendre vers l'autonomie alimentaire, même si on n'y arrivera pas, mais au moins d'essayer de faire ça ou d'essayer de se rapprocher de plus avec des vraies relations humaines pour s'entraider, ça, à mon avis, ça sera indispensable à l'avenir. Et malheureusement, quand tu regardes un petit peu notre société, comment elle tourne, c'est beaucoup plus individuel et il faut arriver à artiser des liens, parce que de toute façon, c'est pas possible, quoi. On sera obligé de, si ça tourne comme ça tourne actuellement et que ça va s'accentuer, va falloir de nouveau s'entraider. Et puis et des fois, tu peux pas, de toute façon, toi en tant qu'individu tout seul, tu peux pas tout chambouler, quoi. C'est un problème tellement important que c'est pas tout seul dans son petit coin qu'on va changer les choses, c'est à plusieurs. Et à plusieurs, encore une fois, en sensibilisant, c'est pour ça que moi j'essaye de sensibiliser au travers de la fresque du climat pour faire comprendre les problématiques. Et c'est un travail collectif, quoi, c'est pas individuel. Donc, tous les choix, en tout cas, moi que j'essaye dans mon quotidien, après, c'est, c'est pour essayer de tendre vers une transition écologique un peu durable, quoi. Ouais. Et puis, au moins d'essayer, quoi. Parce que, justement, de comprendre les choses et puis de ne pas se mettre en action par rapport à ça, c'est vachement démoralisateur et,
ouais.
et démobilisant. Donc, il faut essayer d'être dans l'action du mieux possible. Et puis, au moins, ça permet de faire tenir un peu le moral, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, moi, c'est ce que j'ai essayé de me dire. C'est juste, regarde pas trop ce qui se passe autour. Essaye de te concentrer sur toi, tes chiffres, tes habitudes, et essaye de faire un petit peu mieux.
Et d'essayer, quoi. Et
d'aller à ton rythme.
Dans l'action.
Et... Ouais, exactement.
Non, l'action, c'est moteur.
Ouais, ouais. Bien sûr. Et puis, si tu fais un micro-changement tous les mois, en fait, dans 10 ans, t'as fait 140 micro-changements. Mais qui peuvent avoir des grosses conséquences, tu vois. Donc, c'est ça qui est... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de regarder, quoi.
Ouais, c'est sûr. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis, quand, comme tu vois un peu comment ça tourne, aussi, voilà, il y a... Ben voilà, je me dis, voilà, les dirigeants aujourd'hui, ils sont pas du tout à la hauteur de cette transition écologique. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est mobiliser la masse en bas, de les sensibiliser au maximum pour que derrière, ça puisse aller vers des dirigeants qui tiennent la route sur cette transition-là. Et puis, vers un avenir meilleur, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est toujours tout le paradoxe, tu vois, du rôle de l'État. Est-ce que on doit forcer les entreprises, tu vois, et les mettre sous la contrainte pour que derrière ça ruisselle, ou est-ce que tu passes par le peuple qui va se mettre à choisir du coup des dirigeants plus écologiques qui vont mettre les choses en place. Donc c'est hyper intéressant. T'en as retenu quoi, toi, de ces livres, de ces lectures?
Ben, qu'est-ce que j'en ai retenu, ça a déterminé beaucoup de choses dans mes choix et puis dans mon quotidien. Tu vois, si je suis animateur de la fresque du climat, si c'est pas pour rien, quoi, c'est en me documentant sur ces problématiques-là. Ouais. Et ces lectures de livres, c'est aussi pour ça, c'est qu'on a tous un rôle à jouer finalement.
Ouais.
Pour améliorer l'état de la planète. Mais on nous dira, la France n'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais comme 200 autres pays, mince alors. Bah, en fait, c'est un faux argument, il y a plein d'arguments comme ça qui sont à enlever parce que...
Ouais, tu peux tout minimiser, quoi.
Ouais, tous partie du problème, quoi. Sauf quelques pays, voilà, mais nous, en tant qu'occidentaux, on fait partie du problème, même quand on est, voilà, quand on est au-dessus de 2 tonnes de CO2, on fait partie du problème, pas de la solution. Donc il faut arriver à essayer de diminuer un petit peu un petit peu beaucoup les émissions de gaz à effet de serre, hein. Voilà.
T'as vu des initiatives positives là? On parlait un peu hydrogène et t'étais pas convaincu, toi. Il y a des technologies, des choses que tu suis là en ce moment qui te redonne un peu d'espoir.
Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui me redonne de l'espoir? Bon, après, voilà, non, il y a 2-3 actions grâce à des militants bien poussé comme Camille Etienne, par exemple, qui font vraiment des bons boulots sur l'exploitation des fonds marins qui n'a pas été autorisé, en tout cas en France. Ça, c'est des bonnes choses, quoi. Des projets comme celui d'ICOP avec Total Energy, où ils n'arrivent pas à trouver les fonds pour finaliser leur projet, ça, c'est trop bien, c'est grâce au militantisme. On voit que ça fonctionne et c'est top. Et ce genre de mouvement qui se met en place, ben, c'est encourageant.
Ouais.
On sent qu'il y a une certaine prise de conscience. Après, il faudrait que ça se traduise plus par du passage à l'acte.
Ouais, bien sûr.
Mais Voilà, après, c'est vrai qu'on regarde plus souvent le côté obscur. Et puis, y a plein de choses qui ne tournent pas forcément rond. Ouais. Le projet de la 69, l'exploitation, encore une fois, du pétrole par la Grande-Bretagne, toutes ces choses-là, bah, tu te dis, ouais, c'est pas une bonne chose, quoi.
Ouais. Et puis, en fait, ce qui est rageant aussi et frustrant, c'est que tu as parlé du projet Total et effectivement du militantisme qui a ralenti ce projet, même l'arrêté. C'est que faut toujours que ça passe par une certaine forme de combat ou que des gens disent non, mais attendez, vous faites des conneries énormes et que ouais, certaines entreprises, par course de profit, tu vois, se mettent aucune limite, tu vois. Et que tu es toujours obligé d'avoir un garde-fou. Tu n'as personne qui est un peu raisonné, qui dit non, mais là, on va trop loin. Et c'est ça, ça m'alarme, tu vois, de voir qu'il faille toujours passer par un combat, des affrontements pour estimer que c'est gagné, en fait. Alors qu'en fait, non. Tu as empêché une entreprise d'avoir un projet absurde, c'est pas gagné, tu vois.
Ce qui est dur, en fait, à accepter, c'est comment les militants écologistes sont considérés, quoi. Comme notre ministre de l'Intérieur, quand il dit des éco-terroristes, alors que c'est pour l'intérêt général, le bien commun, eh ben, on va les traiter d'éco-terroristes, quoi. C'est quand même incroyable. Ouais, alors que on est en train d'essayer de sauver la planète et puis d'amener du mieux dans ce monde, et on est quand même des terroristes. Mais je sais pas qui est le terroriste entre les deux, mais voilà, quoi. C'est clairement pas normal, et puis il tue personne, quoi.
Ouais,
c'est pour le bien commun, encore une fois.
Ouais, non, mais c'est sûr. Et là, il y a encore une question de perception et de communication sur lesquelles on pourrait en dire long, quoi. Y a d'autres lectures qui t'ont influencé peut-être sur d'autres sujets, là, récemment, que tu peux recommander. Merci, en tout cas, pour ces deux recommandations. Je sais qu'elles sont hyper, hyper bien. Moi, j'ai lu le livre d'Aurélien Barraud, et effectivement, ouais, c'est... Ça donne envie de se bouger, de prendre le problème à bras-le-corps, et ça fait comprendre l'intérêt, concrètement, ce qui est en train de se passer, quoi. Donc,
Bah là, j'ai pas lu son dernier bouquin, il a sorti un dernier bouquin dernièrement, mais sinon...
Ça peut être d'autres sources d'informations, c'est pas forcément des livres, mais... tu vois, ça peut être des, je sais pas, magazines, des chaînes YouTube ou des endroits où tu vas t'informer, tu t'instruis et qui te font, qui éveillent ta conscience.
Ouais. Moi, là, quand je bricole à la maison, par exemple, alors quand je suis en sortie et je fais du sport, j'aime bien écouter ce qui m'entoure.
Donc, t'as bien raison.
Je mets pas de musique, ni la radio, ni de podcast. Après, quand je suis dans les travaux à la maison, c'est différent. Donc, qu'est-ce que j'écoute généralement aussi? J'écoute bien Blast, par exemple.
Ok.
Ouais. C'est super intéressant. Et puis aussi, après, sur un autre domaine, plus sur la médecine fonctionnelle, la nutrition, j'adore écouter Georges Mouton.
Yes.
Voilà. ou plein d'autres, hein. Tout ce qui englobe en fait le milieu de la santé, donc des interventions d'Anthony Berthoud, par exemple, Denis Super Richer, Georges Mouton, encore une fois, ou après, bah, plutôt pour s'intéresser à la politique, à l'environnement, Blas, le Green Letter Club aussi, que j'aime beaucoup.
Ok.
Les interventions d'Hugo Clément aussi, j'aime bien.
Ok.
Voilà, quoi.
Ça bon, fait déjà bon, beaucoup
on m'a, à consommer. On m'a catalogué là cette fois, c'est bon.
non, mais c'est bien, tu vois, de les mettre aussi en avant, tu vois, bah ce type de médias. Ils font tous du bon, du très bon travail, et j'en consomme pas assez. Donc, tu vois, je te demande. Moi, j'aime bien aller m'inspirer là où les gens qui m'inspirent s'inspirent. Tu vois,
bah, Thinkerview aussi, très super. Bonne chaîne YouTube pour comprendre le monde dans lequel on vit et tout. Ça, je recommande plus que tout.
Et un excellent podcast aussi, également, vous pouvez retrouver. Je voulais te poser la question sur les événements et la compétition. Je voulais te te demander, toi, tu vois quoi comme amélioration qu'on pourrait faire pour avoir des compétitions, des rassemblements d'athlètes qui soient plus écologiques, plus en adéquation avec tes valeurs. Parce que il y a un peu le débat hein, dans la montagne que effectivement le trail, qui est un magnifique sport qu'on adore tous, qui apporte un jeu à la montagne, et on peut voir que y a un équilibre fragile entre le plaisir, la compétition et la nature. Tu vois, ce serait quoi les petites touches qu'on pourrait améliorer ou les petites choses sur lesquelles on peut se mettre un peu en garde? Je veux montrer du doigt personne, mais l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut donner des idées peut-être à certains décideurs, à certains pratiquants pour faire les choses un petit peu mieux, toujours avec cette théorie du 1% de mieux, peut-être la prochaine fois. Ouais. T'as réfléchi un peu à ça?
Alors, y a plein de choses à faire. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan carbone d'un événement, la grosse part, ça va être le transport. C'est les spectateurs qui se déplacent sur l'événement, c'est les athlètes aussi. Et ça, ça va être 80-90% de l'enveloppe du bilan carbone de l'événement. Donc, c'est sûr que si tout le monde vient en avion, ça va être énorme. Si les gens viennent en train, en vélo, ça va être diminué. Si on fait du covoiturage, du transport en commun, ça va être diminué. Donc, si on arrive à inciter les gens à se déplacer sur un événement avec un transport doux, l'enveloppe du bilan carbone, elle va bien diminuer. Et c'est marrant parce que là, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est il y avait eu un événement, une Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, où les gens étaient outrés par les images qu'ils voyaient à la télé ou dans les journaux. C'est cette bande blanche qu'il y avait au milieu des champs parce qu'on avait amené de la neige d'un point haut jusqu'en bas des pistes, parce qu'au Grand Beau c'est peut-être 1000 mètres ou 900 mètres, bref. Bien sûr. Puis il n'y avait pas assez de neige, donc on allait la chercher en haut, on avait fait de la neige de culture et puis on la descendait en bas, quoi. Et en fait, quand on regarde ce que ça a coûté en bilan carbone, je ne dis pas qu'il y a une problématique, hein. Au niveau de l'usage de l'eau, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Là, on n'est que sur le cursus CO2. Et ça, c'était moins de 1% du bilan carbone de l'événement. Et peut-être 80 ou plus, je ne sais plus exactement les chiffres, mais 80%, c'était le transport, les spectateurs qui venaient au grand nombre autour de la piste du Grand Bornand, etc. Et tout le monde pointait du doigt cette bande blanche qu'on avait fait de la neige de culture venant d'en haut et qu'on avait amené en bas avec des gros camions et tout. Et c'était inconcevable aux yeux des gens de faire encore ça, quoi, à l'heure actuelle. Je dis pas que c'est concevable, hein. Il y a des problématiques à prendre en compte. Mais en fait, c'était pas là le plus gros problème. Le plus gros problème, il venait des gens, la multitude de gens qui venaient ici, le transport, etc. Donc,
comme sur beaucoup d'événements.
Voilà, il faut, en fait, les ordres de grandeur, quand on les a en tête après, qu'on a compris d'où ça venait, c'est plus facile pour prendre les bonnes décisions et puis orienter pour diminuer l'empreinte carbone. Ouais. Donc déjà ça, je pense que c'est un point à essayer d'améliorer. Je sais qu'il y a plein d'événements qui font des efforts dans ce sens-là, essayer d'amener des participants avec des transports doux. Et puis après, il y a comment on consomme sur la course aussi. Les ravitaillements, comment on les envisage, etc. Le choix du partenaire, hein, est-ce que c'est lié à une industrie liée aux énergies fossiles ou pas. Alors qu'il y a les glaciers qui nous fondent au-dessus de la tête, et tout le monde s'alarme que les glaciers nous fondent au-dessus de la tête, mais pour autant, on choisit des partenaires avec des énergies fossiles. Bref, il y a plein de... Il y a encore plein de choses à voir et à discuter, à échanger pour faire comprendre ces problématiques, quoi.
Ouais. C'est vrai que philosophiquement, on va pas citer ces fameux partenaires, mais il y a un petit couac, quoi. Il y a un petit couac dans la matrice.
En fait, ce qui est dur...
C'est un peu du greenwashing. Hein. C'est quand même s'attribuer des images de nature, s'attribuer des images de montagne.
Ouais, mais on n'est pas obligé de choisir. Je veux dire...
Ouais, bien sûr.
En plus, on connaît les problématiques. Bah, pour citer Chamonix, on a les glaciers qui fondent au-dessus de nos têtes, quoi. On le voit, les habitants de Cham, ceux qui vivent dans ce coin, ils voient qu'il y a... Il y a un problème, quoi. Tout le monde s'alarme de ça, et pour autant, on fait pas les bons choix, quoi. Le passage à l'acte, il se fait pas pour l'organisation de la plus grosse course autour du Mont Blanc. Bon, je sais pas, c'est fou, quoi.
Ouais.
Il y a une prise de conscience qui est un peu biaisée, quoi. Je sais pas trop, c'est bizarre.
Il commence à y avoir un désalignement des valeurs, peut-être, tu vois. Et je trouve que pour une entreprise, autant que pour une personne, quand ça commence à se désaligner, c'est pas toujours de très bon augure. Ça me fait poser des questions, tu vois. Et quand, bon, on n'est pas obligé de le garder, on pourra le couper, mais tu vois, quand certains trailers mettent en garde, tu vois, sur les pratiques publiquement et disent, bah, les gars, est-ce qu'on réfléchit pas ? On peut argumenter, polémiquer sur c'est bien, c'est pas bien, c'est bien écrit, est-ce que c'était vraiment voulu, pourquoi telle personne l'a reçu ou quoi ? Non, c'est juste soulever le débat, et soulever le débat, c'est toujours bien, et c'est essayer de aussi de prendre de l'eau. C'est d'essayer de pas être dans la pensée unique et dans le raisonnement unique, tu vois. Et je pense que c'est ça, on peut le féliciter, tu vois, d'essayer de remettre un peu en cause des statu quo et un circuit qui est mis en place, tu vois. Je sais pas toi comment t'as dû le voir avec ton œil, mais forcément tu dois avoir un œil un peu acéré et un peu peut-être un peu critique sur le sujet, mais c'est jamais évident quand c'est ta passion, quoi.
Non, c'est sûr, surtout quand je vais pas cracher dans la soupe, parce que l'UTMB c'est quand même une course, moi, que j'apprécie par ses paysages, par sa logique du parcours, parce que ce massif du Mont Blanc, il est féerique, parce que il donne des ailes, et puis il y a cette ambiance unique aussi.
C'est la plus belle course du monde, on peut le dire.
Et ça m'a amené énormément de choses, et puis encore aujourd'hui, ça m'ouvre tellement de portes que voilà, c'est vraiment une belle, belle course. Comment on décide d'envisager la suite sur les circuits avec l'UTMB, quel partenaire on décide d'avoir et tout, d'avancer avec cette course, ben là il y a des questions qui se posent, et puis qu'est-ce que ça devient, est-ce que c'est encore possible? Voilà, il faut... Pas facile de trouver le bon équilibre,
ouais,
dans tout ça.
Mais avoir un débat constructif est intéressant.
Exactement. Mais je pense que... Voilà, la question à se poser, c'est vraiment... voilà, qu'est-ce qu'on veut au final ? Est-ce qu'on veut un truc... est-ce qu'on veut toujours l'amener encore plus haut, avec plus de participants, avec... encore plus cher, avec un circuit où on est obligé de prendre l'avion pour se qualifier à l'autre bout de la planète tous les 15 du mois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, quoi ? Et on devrait se poser cette question. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est dans l'air du temps ? Est-ce que c'est encore envisageable à l'heure actuelle ? Je pense que tous, on devrait se poser un peu cette question, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi.
Ouais. Ouais.
Et puis, il faut bien comprendre aussi. Je pense. Hein, après, moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Et puis, j'ai pas la réponse, parce que personne ne peut savoir ce qui va vraiment se passer ces prochaines années. Mais voilà, on a des scientifiques qui nous alertent sans arrêt sur la problématique du réchauffement planétaire. Qu'est-ce que ça va engendrer comme problématique? On sait qu'aujourd'hui, notre société elle s'est développée grâce aux énergies fossiles, que ces énergies fossiles, d'ici ces prochaines années, elles vont fortement diminuer, qu'on pourra pas avoir le même mode de vie qu'actuellement. Si on arrive à faire du sport, si on arrive à faire du Tour du Mont Blanc, s'entraîner, c'est qu'on a du temps libre grâce aux énergies fossiles, parce que les énergies fossiles, elles ont remplacé l'activité humaine, le boulot du travail physique humain avec des machines. Les machines marchent aux énergies fossiles. Si on a moins d'énergie fossile, moins de machines, on aura peut-être moins de temps libre. Et dans un monde qui se réchauffe à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, ça va engendrer certainement d'autres problématiques au niveau par exemple de l'alimentation, des rendements agricoles. S'il y a plus de sécheresse, moins d'eau, est-ce qu'on va pouvoir encore manger suffisamment à notre faim? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Mais je pense que quelle aura la place de notre sport, de notre société avec moins d'énergie fossile et moins et un réchauffement planétaire, je suis pas sûr que ça soit encore une priorité quoi. Nos grands événements, comment ils vont être vus ces prochaines années, ben ça sera certainement différent. Donc des fois quand j'entends dire au sein de l'UTMB, nous ne sommes pas partisans de la décroissance. Bah en fait, c'est qu'on n'a pas compris le problème. Et puis, il faut aller se documenter vraiment. Je sais pas, j'incite les gens à aller écouter Jean-Marc Jancovici, parce qu'il a bien étudié la question. Soit cette décroissance, on anticipe, soit on la subit, mais on va y avoir droit, quoi qu'il en soit. Et je sais pas si on va pouvoir continuer vraiment à faire du sport comme on le souhaite aujourd'hui, demain, parce qu'en fait... on ne pourra tout simplement pas, et il y aura d'autres problématiques, et ces problématiques-là, ça sera la priorité à résoudre plutôt que d'aller faire du sport. Je ne sais pas si j'ai bien,
fait
comprendre, mais voilà.
C'était très clair, c'était super clair. Ouais, effectivement, le sport, ça reste un confort, un luxe aussi, de pouvoir faire du sport comme on le fait. Et effectivement... c'est notamment le sport en compétition, c'est peut-être un luxe dont qu'on devra repenser quoi, complètement pour le futur.
Ouais, en fait on va peut-être faire encore du sport, hein, je dis pas, mais d'une façon certainement peut-être différente. Je veux dire, quand on n'aura pas toute cette flotte de véhicules pour se déplacer à droite à gauche parce que moins d'énergie fossile, et on sait que le parc électrique n'en remplacera jamais tous les véhicules qui sont en circulation aujourd'hui en France parce qu'on n'aura pas assez de minerais pour fabriquer toutes ces batteries, et on va revenir comme avant. Je veux dire, avant, jusqu'en 1950, le premier moyen de transport, c'était la marche à pied. Ben voilà, on va faire de la marche à pied pour se déplacer d'un point A à un point B, et ça fera notre sport, ou en courant pour ceux qui veulent. Ou faire des travaux physiques comme son jardin, ou aller faire son bois, etc. Ça, c'est aussi du sport, quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà, il y a plein de. On pourra toujours continuer à faire du sport, mais peut-être un peu différemment qu'avant, quoi. Mais encore une fois, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Voilà, on verra ces prochaines années.
Ouais. T'en parles quand même à tes copains trailers. Tu vois, moi, j'ai l'impression que t'es un des plus éduqués, les plus renseignés, que t'es précurseur aussi. Alors, beaucoup sont très sensibles, tu vois, mais peut-être avec légèrement moins de connaissances ou légèrement moins d'alignement dans la pratique. Est-ce que ouais, t'en parles aussi un peu autour de toi?
Ben, ouais, on en parle, j'en parle. Souvent, c'est un sujet de discussion qui revient souvent sur la table. Alors après, j'entends dire, on me dit souvent, moi, je veux pas parler de ces problématiques-là parce que je suis pas irréprochable. Personne n'est irréprochable. Ouais. Je veux dire, si on attend tous d'être irréprochables et qu'on mette plus aucun gramme, kilo de CO2 dans l'atmosphère, bah, à ce compte-là, personne ne parle. Parce que personne n'est irréprochable. À partir du moment donné où on est dans ce monde, on émet des gaz à effet de serre. Et même si on est en dessous de 2 tonnes, bah, on est quelque part, on n'est pas forcément irréprochable sur la question. Donc, Et c'est même les scientifiques du GIEC hein, qui nous disent il faut que les sportifs se mettent à parler de ces problématiques-là, parce qu'on se rend compte, alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais les sportifs ben, dans la société, ils sont bien vus, ils sont audibles aussi.
Ouais, et ça c'est important.
Il faut qu'ils fassent passer des messages, et du coup, c'est important de faire passer des messages dans la société avec les sportifs sur ces sujets qui sont très importants quoi.
Ouais, bien sûr.
Et donc ouais, c'est souvent, mais il y en a plein qui osent pas, mais aussi je les comprends, je les mets à leur place ouais. Et puis ils ont peut-être pas aussi les informations, les ordres de grandeur en tête. Ouais. Et voilà, donc
t'es là pour leur apprendre.
Bah, ouais, après je suis pas le seul, non, mais il y a plein d'animateurs de la fresque du climat aussi, et puis ouais, il faut arriver à démocratiser la discussion, et puis que les gens en parlent davantage quoi. Ouais. Pour sensibiliser leur communauté et que ça fasse un élan et que ça fasse effet boule de neige, et puis qu'on arrive vers une transition écologique du mieux possible en prenant ces contradictions.
Bien sûr. Ouais. Bah écoute, ouais, je suis très content qu'on ait pu en parler aujourd'hui, tu vois. Parce que il y a peu d'athlètes cause, comme tu dis, tu vois, beaucoup qui se sentent pas légitimes ou qui se disent que tiens, je suis pas irréprochable et du coup j'ai peur que qu'on va en avoir des reproches. Mmh. Et ça demande du courage, donc déjà bravo pour ça. C'est pas, comme tu l'as dit, personne n'est irréprochable, mais il faut du courage pour s'exposer, et c'est d'autant plus dur quand effectivement t'es quelqu'un de suivi, que t'as une autorité, que t'es visible, donc bravo pour ça. Et encore une fois, moi je te félicite, parce que on vit dans un monde où il y a besoin de plus en plus de modèles cool, de modèles sympas qui donnent envie de le faire, tu vois, et de passer le cap, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et moi, ce que je peux reprocher en tant que petit média indépendant, ce que je peux reprocher un peu à certaines, parfois un peu aux marques, parfois un peu à d'autres médias beaucoup plus gros, c'est de ne montrer que les mauvais rôles modèles quoi, et faire un peu cet effort de montrer des nouvelles possibilités, de montrer l'étendue des possibles et de rendre cool des choses que d'autres médias rendent pas cool. Je suis content de le faire, et je suis content de le faire avec toi, et du coup je te dis bravo pour ça.
Merci.
Ça fait 1h30, on s'était dit maximum.
Okay.
On arrête. En plus, je vois qu'il y a Thomas, ton ami, qui est arrivé. Merci beaucoup, Xav.
Bah de rien, merci à toi. Merci pour l'échange, c'était très sympa. Et puis, bonne continuation alors.
Ouais, merci. Bah toi, merci pour le morceau de piano. Merci pour le déjeuner et pour l'éveil des consciences. C'était un super moment hors du temps.
Bon, bah chouette. Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.